Bonjour. Ça fait tout drôle, doit dire, de me retrouver là. Pour les aînés ou les anciens parmi nous, il y a des souvenirs. Est-ce que j'ose vous demander de ne pas garder les souvenirs, mais de vous ouvrir à ce qui se passe aujourd'hui? 30 ans, c'est beaucoup d'années, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et j'ai très à cœur d'être accueilli pour qui je suis aujourd'hui. En tout cas, merci de me donner cette occasion d'être avec vous. Et merci à Myriam qui a choisi le même texte que moi. Alors, je vais prendre deux autres textes et qui vont encadrer cette prédication. Mais avant, j'aimerais vous poser une question. Bénédiction, je viens, je demande, je cherche, j'espère la bénédiction. Au fond, qu'est-ce que j'attends ? J'ai bien aimé la parole là, que Roger a dit tout à l'heure avec Bartimée. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et cet homme est habitué à demander de l'argent pour subsister. Et je ne sais pas si vous êtes conscient que recouvrir la vue pour lui, c'est changer radicalement d'existence. Cet homme qui est là assis et qui attend qu'on s'occupe de lui, va devoir se prendre en charge, recommencer à vivre, à travailler, à rencontrer, à voir des choses qu'il n'a peut-être pas envie de voir. Donc, la bénédiction, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend de la bénédiction? Voilà, alors avec cette question, on va essayer de cheminer un petit bout ensemble. Genèse 12, Abraham, que vous connaissez maintenant assez bien, d'après ce que j'ai pu voir ces dernières semaines, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Un itinéraire inconnu, un objectif à découvrir, mais il faut se mettre en route. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. » Et ce texte est très important parce qu'au fond, c'est comme un pivot dans l'histoire du salut, dans la révélation. Puisque jusque-là, Dieu a cherché, a tenté de bénir tous les hommes et de conduire tous les hommes dans le projet qui était le sien. Et puis, ça ne fonctionne pas très bien. Vous vous souvenez, hein, depuis Genèse 1, il y a pas mal de catastrophes. Et au fond, là, avec Abraham, Dieu va commencer quelque chose de tout à fait nouveau. Il va chercher un vieil homme qui est marié à une femme stérile et il va leur faire naître un enfant qui va se marier avec une femme stérile dont Dieu va faire naître un enfant qui va marier une femme stérile, qui va, etc. Donc, ce peuple qui va jaillir de la racine d'Abraham est un peuple créé de toutes pièces par l'Éternel. Un peuple mis à part pour être, devenir, répandre la bénédiction. Deuxième lecture, Éphésiens, tout au début des Éphésiens, chapitre 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toute bénédiction. » Ça n'a quand même pas bien fonctionné avec Abraham et le peuple que Dieu a créé. Donc Dieu fait une étape supplémentaire. Et là, il vient lui-même en Christ et il va faire ce que nous allons célébrer tout à l'heure. Il va aller jusqu'au bout. Il va assumer sur lui-même la souffrance de l'humanité pour que le bien que Dieu veut pour nous puisse vraiment s'accomplir. Et à nouveau, pour toute nation, toute race, toute couleur, sans distinction d'appartenance. Donc l'histoire de la bénédiction, elle commence il y a longtemps, puis elle n'est pas finie. Nous sommes inclus dans ce temps de la bénédiction à laquelle il faut accéder, de laquelle il faut recevoir et que nous sommes invités à communiquer. Tu seras béni pour être en bénédiction. Donc c'est jamais le puits perdu. Ce que Dieu donne, ce n'est pas juste pour combler un vide, c'est pour multiplier. Alors, avec ces quelques principes, cette brève introduction, nous allons reprendre ce texte de Nombre 6, mais on va le prendre pièce par pièce parce que c'est vraiment une perle. Enfin, à mes yeux, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment assez exceptionnel, comme Dieu fait les choses avec ces quelques phrases. D'abord, on est là, donc à peu près 600 ans après Abraham, et Moïse doit transmettre à ceux qui sont mis en charge par Dieu, il va transmettre comment bénir, comment poursuivre dans ce courant de vie pour le peuple d'Israël. L'Éternel parle à Moïse et dit « Parle à Aaron ». Juste en parenthèse, presque toujours quand il est question de bénédiction, il est dit « Dieu dit » ou « Il dit » ou « dit hein, ». Donc la parole de Dieu bien sûr, mais ta parole, ma sœur, mon frère, peut être porteuse, peut être une bénédiction ou malheureusement une malédiction. Ça c'est, il y a l'un ou l'autre, mais nous sommes invités à dire la bénédiction. Dis à Aaron et ses fils, voilà, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Deux points, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. On a parlé du drame qui s'est passé cette semaine ou la semaine dernière. Et puis, la semaine passée, on a parlé de Pierre, à qui Jésus a dit « J'ai prié pour toi ». Mais ça n'a pas empêché Pierre de renier Jésus. Alors, première remarque, est-ce que la bénédiction, c'est la facilité ? C'est la vie sans problème ? C'est cette espèce de nirvana auquel beaucoup d'êtres humains aspirent, hein, la vie sans vagues. Le bien-être total, permanent et définitif. Ce n'est pas ce que la Bible m'enseigne, ce n'est pas ce que j'ai compris de l'Écriture ou de la vie chrétienne. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, la bénédiction ? Que l'Éternel te bénisse, super, et qu'il te garde. OK ? Donc, pas d'embrouille. Ah, je crois qu'il y a des gens qui sont assez d'accord avec moi. Hein ? J'ai même l'impression, quand on lit le Nouveau Testament, que l'Éternel te bénisse, super, qu'il te garde, mais beaucoup d'embrouilles. À Jérusalem, ça commence tout de suite. L'Esprit vient sur les apôtres, et peu de temps après, c'est la persécution, ils sont dispersés à travers la Samarie, la Judée, et voire aux extrémités de la terre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il te garde et qu'il te bénisse. Et je pense que la suite va un petit peu nous aider. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. On a déjà la loi, quand Dieu donne ça à Moïse pour Aaron et ses descendants, mais qu'il te fasse, qu'il t'accorde sa grâce. Dans l'Ancien Testament, on trouve déjà la grâce d'une façon magistrale. Mais c'est en Christ qu'elle va s'établir définitivement. Et donc, quelque part, l'embrouille ou les embrouilles ou les soucis ou les souffrances, elles sont là parce qu'elles font partie de notre humanité. Et si nous pensons que la bénédiction, c'est une sorte de montgolfière qui fait que par le souffle de l'Esprit, on peut s'élever au-dessus de la mêlée, je pense qu'on fait fausse route. Il faut trouver un autre chemin. Ça, ce n'est pas le chemin de l'Évangile. Le chemin de l'Évangile, c'est que dans la pâte humaine, dans la réalité, la profondeur et la misère de notre humanité, Dieu vient faire quelque chose de différent. Donc le chrétien, c'est quelqu'un qui porte les deux choses. Il a en même temps la misère de l'humanité qui l'habite, parce que ma chair est faible, elle est tout ce qu'elle est, et puis qui est porteuse aussi de la bénédiction, de quelque chose d'autre, de lumineux, de présent, qui rayonne. Mais pour ça, il faut connaître la grâce. Parce que si je suis porteur de la loi, du jugement, de la condamnation, de la crainte, ça ne fait pas envie. Ça, tout le monde connaît. Alors, qu'est-ce que c'est la grâce ? Eh bien, d'après ce que je comprends, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi. Ça fait écho pour moi à un texte de Paul qui dit dans 2 Corinthiens 4 que l'Esprit, celui qui a dit que la lumière soit, donc le Créateur, a fait briller dans nos cœurs sa lumière. Donc, ma compréhension et une partie de mon expérience, c'est de dire que la souffrance, de quelque nature qu'elle soit, l'épreuve, l'embrouille, la difficulté que je rencontre, si j'accepte que la lumière de Dieu vienne, alors ça va changer les choses. Ça veut dire que je vais comprendre ce qui se passe avec un autre regard et je vais pouvoir vivre, expérimenter la grâce. Alors, si c'est un péché, si c'est quelque chose que j'ai fait de mal, si c'est quelque chose qui m'accuse, etc., je vais pouvoir trouver le pardon. Si c'est quelque chose que je ne comprends pas, je vais pouvoir comprendre pourquoi et à quoi ça peut servir. Si c'est quelque chose que j'ignore, je vais découvrir ce dont j'ai besoin. Mais au fond, la lumière, elle est là pour éclairer. Et comment est-ce que je vais être éclairé ? En acceptant la vérité, la réalité. L'authenticité, oui, Père, je suis cet homme-là. Malgré les années, malgré les expériences, malgré tout ce que tu as déjà fait pour moi, oui, j'ai encore ce problème. Ça m'énerve, ça m'agace, ça m'effondre, mais je suis là. Et c'est de là que j'attends ta grâce. C'est là que j'ai besoin de la grâce. On a fait une fois l'expérience avec des enfants à l'école du dimanche, en leur disant, mais quand tu as fait une grosse bêtise, est-ce que Dieu t'aime encore ? Et nous ? Si j'ai fait une grosse bêtise, quelque chose qui vraiment n'est pas très joli, est-ce que Dieu m'aime encore ? Oui ? Vous êtes convaincus ? Voilà. Donc n'ayez pas peur de découvrir la vérité. Acceptez la lumière. Parce que c'est la grâce qui nous précède. Toujours. Et c'est ce que Calvin a dit bien avant moi. Hein ? La grâce est toujours première, parce que c'est Dieu qui a décidé, et qu'il l'a établie, et il l'offre. Bon, pour pouvoir en profiter, il faut être authentique. Et tous les psaumes, ou beaucoup de psaumes nous disent hein, que l'Éternel nous sauve dans la détresse. On était jeunes parents, qu'un prédicateur nous a dit, si vous empêchez vos enfants de péché, vous les privez de connaître la grâce. À vous de voir. Mais le texte ne s'arrête pas là. Après avoir fait luire sa face sur toi, avoir éclairé ta vie, éclairé ton identité, éclairé ta personne, la face me dit beaucoup de choses de moi, la reconnaissance faciale, on connaît aujourd'hui. Hein. Eh bien oui, ma face, c'est ma face que Jésus veut éclairer. C'est mon être tel qu'il est. Mais il continue. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Face à face. Merci Roger. Les yeux dans les yeux. Il m'est arrivé dans ma vie, c'est une des choses qui m'a conduit à la foi, de ne pas oser me regarder en face dans la glace, à cause de ce qui m'accusait. C'est ça qui m'a conduit à la repentance et à la vie nouvelle. Mais de nombreuses fois depuis, Dieu a cherché mon regard, un face à face. Ça vous est arrivé de temps en temps ? Vous savez, comme pasteur, des fois, on en a jusque-là. Hein ? Des problèmes, des souffrances, des soucis, des non-questions, des non-réponses, enfin bref. S'arrêter. S'éloigner de tout, boucler le natel, plus de livres, plus de théologie, le silence, pour découvrir un face-à-face. C'est la chose qui me fait vivre, hein. Si je suis devant vous ce matin, paisible et tranquille, c'est parce que j'ai vécu un face-à-face. Autrement, je ne pouvais pas prendre la parole. Je n'ai pas en moi-même les capacités de parler comme ça librement. Il faut que Dieu me fasse grâce. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il m'accompagne dans la réflexion. Et ça, ça demande de l'espace, du temps. En un mot, disponibilité. Un face-à-face. Et qu'il te donne la paix. Est-ce que ce n'est pas ce que tout le monde cherche ? On le cherche de tellement de façons. À s'étourdir, à faire quelque chose, à réussir, à être valorisé, à réaliser des tas de choses. Un face-à-face qui change tout. Parce que je suis reçu et je reçois. Je suis établi, donc je peux me mettre debout. Je suis rencontré, donc je peux rencontrer. Moi, je trouve extraordinaire. Franchement, je suis ému et bouleversé de voir votre église, cette église, notre église, mon église, aujourd'hui. Quand je suis parti d'ici, c'était une petite baraque qui faisait précédemment aussi école enfantine pour les enfants, avec un préau. Et puis, oui, aujourd'hui, regardez ce que Dieu nous a donné de vivre. Et la vision que vous avez, ce désir d'aller à la rencontre, d'ouvrir, d'accueillir, d'aller chercher, ok, magnifique. Mais comment est-ce que je vais rencontrer ? Je dois être rencontré pour pouvoir rencontrer l'autre. Il ne faut pas mettre de côté les choses qui me dérangent. Il faut les gérer, il faut les digérer pour pouvoir vivre dans la liberté de la rencontre. Alors c'est un chemin de vie, c'est un chemin de changement. Rappelez-vous Bartimée. Je pense qu'il y a pas mal de chrétiens qui ne voient pas vraiment leur problème. Parce qu'ils ont un système binaire. Hein. Ils sont enclenchés ciel ou enclenchés terre. Ils déclenchent la terre pour enclencher le ciel, puis ça va bien, c'est magnifique, c'est formidable. Puis ils déclenchent le ciel pour enclencher la terre, ils oublient un peu le ciel, puis ils vivent comme ils peuvent là où ils sont. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on soit partout rempli, établi et capable de rencontrer. Alors, ce n'est pas facile. Donc, j'ai encore un poste comme aumônier, et des fois, je suis dans mes petits souliers, suivant ce que je rencontre, suivant qui je rencontre, suivant la situation de la personne. Ben, je suis bien mal pris, je peux vous dire. Ça fait mal, j'ai envie de pleurer, ou je ne sais pas quoi dire. Certaines personnes, j'ai peur de les rencontrer. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Eh bien, j'en parle avec le Père. Seigneur, là, Seigneur, je suis perdu. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Mais j'y vais quand même. Ce que je te demande, c'est d'être avec moi. Donc, je ne maîtrise pas mes émotions. Je les ouvre à l'Esprit de Dieu, qui, lui, peut en faire quelque chose. Et ça, c'est mon plaisir. Quand j'y vais comme ça, dans la crainte, ou dans la question, ou dans la retenue, et puis que je vois ce que Dieu fait, mais il n'y a pas de plus grande joie. De voir l'œuvre de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Oui, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, c'est-à-dire qu'il te protège de renier, qu'il te protège de te perdre, qu'il te protège de te révolter. Et même si tu te révoltes et que tu t'en rends compte, tu peux le dire à Dieu. Moi, j'aime les psaumes quand David dit « Mais qu'est-ce que tu fais là-haut ? Jusqu'à quand ça va durer ? Mais j'en peux plus, là, fais quelque chose !» J'aime dire que Dieu a les épaules assez larges pour se défendre tout seul et pour répondre à nos questions. Ce n'est pas la peine de faire semblant. Parce que si je suis authentique, alors oui, il va me donner ce face-à-face. Il fera briller sa face sur toi. Qu'il fasse briller sa face sur toi. Que sa lumière éclaire ta vie. Que sa lumière éclaire tes questions, tes problèmes, tes circonstances. Et alors, tu pourras aller un peu plus loin. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et ça m'amène à ma conclusion, Jean 17. Jésus prie, là, juste avant de mourir. Il dit beaucoup de choses intéressantes. Je m'attache à la fin de cette prière, où Jésus affirme, « Tu les as aimés ?» Comme tu m'as aimé. Essayez de réfléchir quelque temps à ça. C'est Jean 17, 23, deuxième partie. Dieu nous a aimés nous aime du même amour, de la même qualité d'amour, de la même puissance d'amour qu'il aime, qu'il a aimé Jésus. Bien, quelqu'un qui a entendu quelque chose là. Et je continue à lire la prière de Jésus. « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Verset 26, pardon. « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, sous-entendu encore, c'est un futur, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Donc, ce parcours de vie, il est là pour ça. Connaître Dieu et le connaître encore, encore plus, encore mieux, encore plus intimement, encore plus réellement, afin d'en être porteur et témoin là où nous vivons. Amen.